l'issue, Emmanuel Macron appelle encore une fois à la désescalade.
Et j'espère que les prochaines heures ramèneront le calme et un chemin qui est celui de la discussion pour éviter qu'il y ait évidemment quelques escalades de nucléaire, d'acquisition de capacité nucléaire en Iran et surtout d'éviter qu'il y ait quelque embrasement que ce soit dans la région.
Le chef de l'État sur BFM TV, vous l'entendez avec en fond le bruit des moteurs d'avion. Emmanuel Macron vient de s'exprimer à son arrivée au Groenland sur le tarmac de l'aéroport. Le président français est venu dire non à l'envie de Donald Trump d'annexer ce territoire autonome lié au Danemark. En France, prudence vis-à-vis des orages. 14 départements de l'Est restent en vigilance orange, de l'Ardèche aux plaines alsaciennes en passant par les Alpes du Nord. Ces orages ont fait 2 victimes ce week-end, dont une femme à Paris. Celle-ci a succombé à ses blessures après avoir été touchée vendredi soir à la tête sur les quais de Seine par une branche tombée d'un arbre. Enfin, les courses nous emmènent à l'hippodrome de Chantilly cet après-midi pour la Dream Team RMC 1 favori, le 1 Morphe One. Quant à l'outsider, il s'agit du 8 Harry Way. 15h, oui, et 2 minutes sur RMC, vous retrouvez Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps. Si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à demain, 15h sur RMC.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert, on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Tout a pris feu et tout s'est écroulé.
Quand Annick a perdu sa maison, Élodie, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Il fallait beaucoup la soutenir.
Moi, ce qu'il fallait, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui soit sincère.
Moi, je connais tous mes sociétaires et je connais tous mes dossiers sinistres. Donc l'accompagnement, on l'aura plus qu'un assureur lambda. Ça, c'est certain.
Ça, c'est la vérité. Ça ne serait pas vrai, je le dirais pas. Hein. Non, négatif.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et oui, c'est l'heure de l'Intégral Sport, c'est l'heure des directs et de tous ces moments de grâce que l'on espère connaître cet après-midi avec beaucoup d'événements en direct. Il y aura évidemment dans quelques instants la dernière étape du Critérium du Dauphiné et l'ascension vers Val-Senis. On va en parler avec Maria Azé, avec Jérôme Pinault qui vont tenter de nous faire vivre le truc là, en disant peut-être que on peut assister à un retournement de situation. On n'y croit pas vraiment, mais sait-on jamais. Pogacar a montré quand même qu'il était le cas. On va retrouver Maria et Jérôme dans un instant. On va également aller retrouver Pierre-Yves Leroux qui sera sur le tour avec nous, mais qui en attendant est à Cologne, où il a assisté hier à une grosse défaite de Nantes en demi-finale du Final Four de Hand, battu largement par Berlin. Bah, du coup, c'est la petite finale aujourd'hui, la médaille de bronze qui tend les bras, on l'espère, à Nantes opposé au Barça. Le match vient de débuter et puis on va vivre la dernière heure des 24 heures du Mans. Et oui, il est toujours là, notre ami Nicolas Paolorsi, je ne sais pas dans quel état il est, mais il est toujours fidèle au poste pour nous faire vivre la dernière heure de cette course qui a été largement dominée par les Ferrari. Est-ce que c'est toujours le cas? Bonjour Nico.
Je suis complètement rôti, Christophe. Salut à tous.
Ça m'étonne pas, tiens.
Il reste 56 minutes et oui, Ferrari domine. Il y a une Porsche toujours qui essaye de s'intercaler, mais en termes de performance pure, il y a 3 Ferrari aux 4 premières places dans la catégorie des hypercars. Sauf soucis mécaniques, là, ils ont géré les derniers arrêts au stand parfaitement. Les pilotes Ferrari, ça devrait le faire pour la Scuderia Ferrari qui s'est déjà posée en 2023, en 2024. C'est une sacrée perf. Il n'y aura pas visiblement de Français vainqueur des 24 heures du Mans. C'est plus arrivé depuis 2016, Christophe, d'avoir un Français qui remporte les 24 heures du Mans dans la catégorie Rennes. Ça commence à dater quand même. Hein.
Effectivement, ça commence à dater. Mais c'est vrai que cette équipe Ferrari, pendant des années, on l'avait pas vue sur les 24 heures. Et depuis qu'elle est de retour, elle est quand même impressionnante. Là, c'est la passe de 3 succès consécutifs. Moi, je suis.
Il y a souvent eu des dynasties, tu sais, au moins.
Il y a eu la dynastie Audi,
Toyota. Peugeot, avant, Toyota. Ouais. Toyota, on se rappelle.
Oui, mais là, il y a quand même beaucoup de constructeurs qui, depuis 2-3 ans, ont fait leur retour aux 24 heures. Or, celui qui a fait le retour le plus tonitruant, c'est la Scuderia, hein, quand même. Hein. Ils sont meilleurs en endurance qu'en Formule 1, quand même.
Ils gagnent plus, oui. Alors après, comme tu dis, ça fait pas longtemps qu'ils ont rejoint le WEC et le championnat d'endurance, mais c'est vrai qu'ils gagnent. C'est vrai qu'ils dominent ce championnat-là depuis maintenant 3 ans, et ça se ressent vraiment. C'est un vrai projet. On le dit que c'est super important pour les constructeurs aussi, parce que le championnat WEC, c'est un championnat qui désormais a énormément de visibilité. Il y a beaucoup de pilotes, dont des pilotes qui sont parfois sujets à avoir un poste de troisième pilote en écurie de F1, qui choisissent un poste de titulaire en endurance. C'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, ça, hein. Tu l'aurais jamais vu, ça. Mais le championnat a pris une telle ampleur que désormais, ces pilotes font ce choix-là. Donc, c'est sûr que Ferrari fait un très, très, très joli coup. Il y a un très joli parcours dans ce championnat d'endurance. Il y a plein de constructeurs qui reviennent, hein. Aston Martin, par exemple, cette année. Ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas venus au Mans. Il y a McLaren qui a annoncé sa participation en 2027 aussi. Donc, dans 2-3 ans, tu auras vraiment toutes les grosses marques qu'on connaît de voitures, de constructeurs qui sont super importants dans le sport automobile depuis 50-60 ans, elles seront dans ce championnat.
Bon, c'est la jaune qui est en tête, c'est la Ferrari jaune qui est en tête. Est-ce que c'est une Ferrari d'usine ?
Non. Pas une Ferrari d'usine. T'as raison, c'est la Ferrari pilotée par Robert Kubica. C'est pas la Ferrari d'usine. Les Ferrari d'usine sont 3e et 4e.
Ah ouais, donc la petite Ferrari préparée en dehors marche mieux que les deux rouges, quoi. La jaune marche mieux que les rouges. C'est comme ça. Bon, écoute, on revient de voir. Il y a toujours autant d'ambiance à Oman. Tout le monde est là. Tout le monde s'est réinstallé dans les tribunes pour voir la dernière heure, j'imagine.
Écoute, on s'est régalé. On a eu un petit concert de Cool and the Gang hier soir entre 20h et 23h. Après, les boutiques officielles des 24h se font dévaliser. Mais c'est fou, hein. Ça génère 1 million d'euros de produits dérivés sur 24h, c'est cette course. Il y avait des ruptures de stock dans tous les sens. Il y avait un deuxième concert d'un DJ français. Je ne sais pas si tu connais The Avenger, là, jusqu'à minuit pour mettre le feu. Et après, feu d'artifice, spectacle de drones, de laser. Et derrière, les gens, soit ils retournent sur le circuit, ça, c'est pour les plus vaillants. Il y en a beaucoup qui sont allés au camping. Il y a 14 aires de camping où il y a plein de gens qui font la fête. Et sinon, il y a les hôtels. Tu sais que les prix d'une nuit d'hôtel.
J'ai vu ça, ouais, c'est complètement hallucinant.
C'est l'équivalent à une nuit d'hôtel à Manhattan sur le week-end. Voilà. Donc, c'est assez.
Heureusement, toi, t'es venu avec ta toile de tente, avec ton duvet, tu t'es installé dans ta petite cabine et t'as pu dormir.
Moi, c'était gratuit. C'était la cabine commentateur RMC. On manque un petit peu de confort quand même. Je vais pas vous mentir.
J'ai connu ça il y a quelques années. Mais bon, voilà. Mais c'est bien. C'est un moment magique. Et je pense que pour un commentateur sportif, d'avoir couvert au moins une fois les 24 heures du Mans, ça, c'est un truc à faire dans sa carrière. À tout à l'heure, Nico, pour la suite et la fin de ces 24 heures du Mans. On va partir dans un instant au Mondial Judo à Budapest. Un tout petit mot tout de même avec Pierre-Yves Leroux, qui est à Berlin, toujours pour le Final Four.
À Cologne.
Mais Berlin, ouais, c'était hier, c'était l'adversaire. Là, c'est Magdebourg qui est en finale. Mais c'est donc face au Barça que ça se joue, et c'est donc toujours à Cologne. Allez y reconnaître vos petits là-dedans. Bon, ça va, Pierre-Yves?
Oui, ça va très bien. Ça va très très bien, et ça va plutôt bien aussi du côté du HBC Nantes. C'est pas du tout le même visage qu'hier. On les retrouve avec leur qualité défensive notamment, et surtout de la précision en attaque. Ils sont passés à côté de leur demi-finale pour l'instant. Après 7 minutes, ils mènent 4-3 face au Barça, et ils ont même mené 3-0 tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas du tout le même match, et ça apporte encore un petit peu plus de regrets peut-être, en se disant il y avait moyen de faire mieux hier. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, ils avaient dit il faut qu'on montre un meilleur visage aujourd'hui. C'est le cas pour l'instant, pour essayer d'aller chercher la troisième place derrière Berlin et Magdebourg, qui vont s'affronter en finale tout à l'heure. C'est le premier contre le deuxième du championnat d'Allemagne. Ça sera un beau match également. Et on a plein d'internationaux là sur le terrain actuellement, évidemment, puisque du côté du Barça, il y a Nguessan, il y a Melvin Richardson, etc., etc. 8 minutes de jeu, 4-3 en faveur du H.
À tout à l'heure, Pierre-Yves. Alors, il y a l'UAE en matière de cyclisme, mais même il y a même des représentants de l'UAE en judo, avec les quarts de finale de la catégorie des moins de 73 kilos. Nous sommes au championnat du monde qui se déroule à Budapest avec Morgan Mori, mais un Français face à ce représentant de l'UAE. Et ce Français, bah, il nous avait régalé l'été dernier. C'est Gaba. Salut Morgan.
Bonjour Christophe. Ouais, Johan Benjamin Gaba, vice-champion olympique, troisième des championnats d'Europe. UAE, c'est Émirats Arabes Unis, mais c'est un garçon de Russie, d'Agestanais et Tchétchène. Makhmatbekov, l'un des frangins. Makhmatbekov, il est très fort. Tête de série numéro 4. C'est parti dans ce quart de finale entre Gaba, qui a été superbe ce matin. Il a un tableau très difficile. Il vient de battre le champion du monde 2023, le Swiss Stump. Et là, c'est chaud face à Makhmatbekov, un garçon qui est très bon sur les tournois, qui n'a qu'une médaille continentale asiatique du bronze à son palmarès. Mais il est redoutable. 0-0 après une minute dans ce quart de finale. Gaba en bleu. Et une pénalité contre le Français. Pourquoi ? Parce que c'est Makhmatbekov qui fait le combat pour l'instant. Mais la machine Gaba était lancée ce matin. Il faut s'organiser. Déjà, attraper la veste de son adversaire, il n'y arrive pas. Makhmatbekov qui tire fort Gaba avec lui, avec sa main droite, et qui part sur le dos. Une technique de sacrifice, un renversement, Sumigaishi. Gaba qui a bien résisté, il essaye de bosser au sol, mais il est repoussé par les jambes de Makhmatbekov. Encore 2 minutes 39, Christophe, dans ce quart de finale des moins de 73 kilos. 0-0 entre Makhmatbekov pour les Émirats Arabes Unis, qui achète pas mal de combattants, et le Français, Johan Benjamin Gaba.
Ouais, très bien. On a vu tout à l'heure Sizik se qualifier à l'issue du Golden Score. Ça a été très long, ce combat, hein.
Oui, plus de 10 minutes pour Sarah Léonie Sizik pour battre la Russe Zueva. Et la tentative d'Uchimata de Makhmatbekov sur Gaba, il tombe à plat ventre, le Français. C'est l'Emirati d'origine russe qui fait le match pour l'instant, Christophe. Va falloir poser plus vite les mains et attaquer. On l'a vu, il a parfois été en difficulté contre le Suisse, mais est capable de lancer, de jeter très fort ses adversaires. Gaba, aujourd'hui, il allait en Golden Score une fois, mais il n'a mis que des hippons aujourd'hui. Oui, le balayage de Johan Benjamin Gaba sur la première attaque de Makhmatbekov, qui est venu en fauchage intérieur. Le Français essaie de le contrôler pour le basculer ensuite vers l'arrière. On est au sol. C'est sa première action forte à Johan Benjamin Gaba dans ce match. Encore 2 minutes 5. Makhmatbekov qui est à genoux. Gaba qui est déjà à sa place. Il faut mettre la pression physique. Il sait le faire, Johan Benjamin Gaba. Les combats à rallonge, c'est son domaine, Christophe. Toujours 0-0 dans ce quart de finale.
Voilà, quart de finale très disputé, évidemment. Gaba va-t-il apporter une deuxième médaille à cette équipe de France? On le souhaite, évidemment, mais c'est un adversaire redoutable que ce représentant de l'Union de l'UAE, donc d'origine tchétchène, qui pour l'instant en fait voir de toutes les couleurs à notre Français.
Oui, c'est très fort, non, c'est très fort. Ils n'achètent pas n'importe qui, les Émirats Arabes Unis, Christophe. Ah, t'imagines, bah oui. Bien, ils ont monté une grosse équipe masculine. Chez les filles, ils vont chercher plutôt du côté de la Mongolie. 1 minute 37, le match est arrêté pour un problème sur la veste de Makhmatbekov et un problème de pansement pour Johan Benjamin Gaba. 1 minute 36, il faut mettre du rythme parce que je ne sens pas, il n'a pas le même cardio que Gaba, à mon avis, Makhmatbekov, mais techniquement, c'est très, très fort. Hein. Il ne faudra pas chuter. 1 minute 35, c'est reparti, Christophe, dans ce quart de finale. Makhmatbekov, Uchimata, et la fin de derrière pour passer sur un mouvement vers l'arrière, un grand fauchage intérieur. C'était très fin. Gaba qui s'est jeté à pas ventre, mais on n'était pas loin de tomber sur la tranche et de donner un yuko. Ça va très vite quand il pose les mains, Makhmatbekov. 1 minute 21, toujours 0-0. Mais il y a des alertes contre le Français, Christophe, dans ce match.
Ouais, il y a des alertes parce qu'il est très vif, Makhmatbekov. Ouais. Hein, il va à une vitesse hallucinante et s'il arrive à trouver la faille, ça va être compliqué pour Gaba. Mais pour l'instant, il résiste.
Gaba qui doit d'abord poser les mains, main droite posée pour Johan Benjamin Gaba. C'est l'objectif. Il faut poser la main droite. Là, Makhmatbekov l'a fait lâcher. Il a la première main au revers, Johan Benjamin. C'est bien, maintenant, il faut la deuxième. On est dans l'angle du tatami. Ça tire des deux côtés. Il essaye d'aller sur l'arrière, Johan Benjamin, dans son kataguruma, le mouvement qui lui a permis de battre le japonais Abe en finale des Jeux Olympiques par équipe, qui lui a permis de passer son premier tour également. On se relève. Nouvelle action du Français. Alors, ça n'a pas marqué, mais c'est bien. Il est en train de monter en température et Makhmatbekov qui prend beaucoup de temps pour se rhabiller. Alors là, il donne pénalité contre le Français. C'est un peu dur parce qu'il était pas mal fait son kataguruma. Là, Christophe, les données du problème ont changé. 0-0, mais deux cartons jaunes contre le Français au troisième. Il sera disqualifié. Il faut produire un judo de qualité. Ne pas laisser Makhmatbekov attaquer. Voilà, grand fauchage intérieur de Johan. Il y revient sur un deuxième. Il essaye de doubler. On est au sol. Le Français qui s'allonge, qui se raidit pour ne pas être retourné en planchette japonaise par Makhmatbekov. Encore 38 secondes dans ce combat et on va basculer en prolongation. Makhmatbekov qui s'accroupit
à chaque match d'arbitre. Il a l'air de souffrir physiquement quand même.
À mon avis, c'est dur.
Mais il devrait prendre un avertissement parce qu'il fait perdre du temps là quand même.
Qu'il essaye de décourter les séquences. Ça peut se pénaliser. L'Emirati d'origine russe qui a les mains sur les hanches sur ce nouveau maté de l'arbitre. La filière, c'est filière physique là pour Gaba pour gagner. Et voilà, l'arbitre le voit. Pénalité contre Makhmatbekov. Il doit le sentir. Ouais. Il doit le sentir, Johan Benjamin, que là, c'est là qu'il faut aller. Mais Il a du feu dans les mains, Makhmat Bekov. Faut surtout pas tomber. Faut aller en prolongation. On tient le match nul, là, 0-0. Allez, le combat qui est relancé. Encore 17 secondes. Main gauche de Johan sous l'aisselle de son partenaire. Il peut partir en mouvement d'épaule. Il l'a déjà fait aujourd'hui. Il vient placer la main droite. Ça, c'est fort. Allez, faut tracter maintenant. Faut tracter long. C'est Makhmat Bekov qui se jette dans une technique de sacrifice. Un sumigaishi, une sorte de planchette japonaise. 4 secondes, Christophe. On va aller certainement en prolongation. Johan qui est déjà à sa place, prêt à recombattre.
Ah, il est
dans
cuit, l'arène. Tandis que Makhmat voilà. Bekov. Il est cuit, le
Mais on a déjà vu des garçons comme ça capables de sortir un coup de judo, un éclair et de passer sur malgré la fatigue. Golden score, Christophe, le premier qui marque a gagné. Si Johan prend une pénalité, si Johan Benjamin encaisse une pénalité, il sera disqualifié. Là, faut le prendre et le secouer comme un prunier, ce Makhmat Bekov.
Allez, c'est parti. C'est reparti donc pour ce Golden Score. Gaba contre ce Makhmat Bekov, c'est compliqué quand même pour Gaba depuis le début de ce combat. Il faut essayer de fatiguer son adversaire.
Ouais, c'est la tête de série numéro 4, Christophe. Il a vraiment eu un tableau en pente. On commence avec une petite pente, puis ça monte petit à petit, et ça va finir avec le mur de Huy pour l'Alpe d'Huez pour Johan Benjamin Gaba dans ce championnat du monde. Mais il a battu le champion du monde 2023, le Suisse, et ça, c'est qu'il est très chaud, le Français. 15 secondes dans le Golden Score, pas de limite de temps. Il a chippé la manche de son adversaire. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien d'avoir pris la manche droite de Makhmat Bekov. Il se jette à genoux, Makhmat Bekov. On va pas lui donner de fausse attaque parce que Johan va tout de suite sur un Sankakujime. Le retournement en triangle. Il n'arrive pas à placer le talon droit derrière le coude de son adversaire. Il écourte les séquences. Makhmat Bekov, ça peut se pénaliser. On l'a vu avec la Russe tout à l'heure. Son technique, c'est je pose les mains, j'attaque. Mais il n'y a pas la qualité d'attaque. Et l'arbitre, eh bien, il donne une pénalité. Et là, il y a un souci médical. Makhmat Bekov qui va aller voir le médecin, Christophe. Il va pouvoir un tout petit peu souffler, respirer, reprendre des forces. Et on va relancer le combat. Pause.
Ils ont droit comme ça à une pause
pas.
Médicale.
Non, on ne demande pas. On demande pas la pause. L'arbitre, il constate un doigt qui saigne. Quelqu'un qui va voir le docteur.
D'accord.
Voilà. On ne réclame rien en judo. S'il y a du sang sur le judogi, là, par exemple, on doit le changer. Non, c'est l'arbitre qui dit OK. Cette situation-là nécessite un arrêt. C'est sûr qu'on aurait préféré que Johan reste dans le rythme. Mais ce qu'on dit, Christophe, ce qu'on voit souvent en judo, c'est que la personne qui se fait soigner reste dans une forme de tension et reprend souvent mieux le combat que la personne qui est restée sur le tatami à attendre. Et c'est pour ça que Johan Benjamin Gaba est en train de sautiller dans son judogi bleu. Faut garder de l'influx, faut garder du stress à la pression du combat. C'est souvent celui qui se fait soigner qui démarre mieux à cette reprise, à la reprise du combat. Et là, on est en golden score. On le répète, le premier qui marque gagne. Makhmat Bekov est toujours en train de se faire soigner.
Oui, alors on rappelle aussi que le Français a deux pénalités. L'Emirati n'en a qu'une pour l'instant.
Toujours une seule.
Donc il ne faut pas commettre d'erreur non plus. Il ne faut pas faire de fausses attaques. Il faut vraiment bien gérer son truc. Mais Gaba a l'air concentré. Il est en sueur, mais il a l'air de vouloir en découdre le plus rapidement possible.
Bah, il adore. C'est un combattant. Et il était dans la même situation contre le Suisse tout à l'heure en huitième de finale. Deux pénalités contre lui. Une belle attaque, un beau mouvement d'épaule et il a collé stump sur le dos. 36 secondes dans le Golden Score, 4 minutes 30. Johan qui est rapide sur les mains. Ça, c'est bien. Faut vite aller saisir Makhmat Bekov, avancer vers lui. Mais il a placé sa main dans le dos du Français, Makhmat Bekov, avec le pied à l'intérieur. Ça, c'est très gênant cette saisie. Faut tourner Johan Benjamin parce que là, il y a danger. Makhmat Bekov qui appuie fort sur Gaba qui le met à genoux. Il va tenter un étranglement. Makhmat Bekov, faut fermer. Allez, ne pas laisser passer les mains sous la gorge. Il défend bien Johan Benjamin Gaba. Il se relève tandis que Makhmat Bekov, lui, reste en tailleur sur le tatami. Il prend son temps, il faut lui faire exploser le cœur à Makhmat Bekov qui vient de se relever, Christophe, 5 minutes dans ce combat et un nouveau saignement, c'est de la bouche cette fois-ci pour Makhmat Bekov, retour à la case infirmerie.
Ah c'est dingue.
C'est pas de chance parce que c'est pas le scénario de combat qui aide Johan Benjamin avec ses...
Oui, parce que chaque fois l'autre revient, il refait un peu de jus et il revient en meilleure forme parce que là si tu le reprenais tout de suite, il a l'air vraiment cuit quand même, notre ami Emirati. Hein.
Ouais, alors Johan aussi de refaire les niveaux un petit peu, de repenser au plan. Il reste extrêmement calme, on ne pense pas à ce qui s'est passé avant ou de pénalités contre lui. Il a le plan, il a quand même été meilleur au fur et à mesure que le combat s'est déroulé, Johan Benjamin, et il a l'habitude des combats à rallonge, Christophe, au championnat d'Europe. 5 combats, 32 minutes sur le tatami pour Johan Benjamin, c'était monstrueux, plus de 6 minutes plus de 6 minutes de combat pour arriver à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques aussi, des combats à rallonge pour passer. C'est son domaine, ces combats qui durent. Matmabekov qui se fait soigner la lèvre pour un saignement. Et Matmabekov qui revient, Christophe, dans 20 secondes, ça repart pour ce quart de finale. 5 minutes 0-0 entre Matmabekov et Gaba, quart de finale des 73 kilos.
Allez, on espère des médailles aujourd'hui pour le clan de l'équipe de France. On rappelle que Sarah Léonie Cizik, c'est elle aussi qualifiée pour les quarts de finale et qu'on suivra le combat tout à l'heure. C'est reparti, Morgane.
C'est reparti. Le premier qui marque a gagné, Matmabekov en droitier qui essaye d'envelopper le bras du français. Ils adorent ça, les combattants d'origine russe. Ils sont très forts. Et Joanne qui le devance avec sa main gauche. Attention, la main du russe est placée. Il est cassé en deux, le français. Il y a l'ouverture sur Uchimata. Il le sent. Matmabekov, il va lancer. Il lance deux. Un Uchimata très rotatif. Joanne Benjamin qui tombe à plat ventre. Nouvelle séquence forte pour Matmabekov. Attention à ne pas avoir la pénalité pour non-combativité. L'Emirati qui reste à. Ouais. Matmabekov qui se relève, ça repart. La prochaine séquence, Christophe, elle doit être pour le français. C'est lui qui doit attaquer. Une attaque correcte. Et l'arbitre aura oublié que c'est Matmabekov qui a fait la dernière minute. Oui, le Uchigari tombe à plat ventre. Matmabekov, la plus forte action de Joanne Benjamin Gaba, c'était ça. Très bien. Il s'est glissé, il a disparu sous le centre de gravité de son adversaire, pratiquement la tête sous la ceinture. Et en rasant avec sa jambe gauche, il est venu faucher la jambe droite de Matmabekov qui est tombé à genoux. Travail au sol de Gaba et qui est pas maladroit au sol. Il a immobilisé son adversaire hongrois au premier tour. Il a besoin de lever le coude de son adversaire, il n'y arrive pas. Mais c'est bien, travailler au sol, ça use les défenses énergétiques de l'adversaire. C'est de l'énergie en moins peut-être pour Matmabekov qu'il pourra cueillir debout. On se relève, Christophe, 6 minutes dans ce quart de finale entre Gaba et Matmabekov.
Ça a duré combien de temps tout à l'heure pour le combat de Cizik?
Plus de 10 minutes, Christophe, ouais. Un peu plus de 10 minutes.
10 minutes, à ce rythme-là, on rappelle que le cardio, le cœur monte très haut hein, dans un combat comme ça, avec une grosse, grosse intensité. Et bien là, on va voir si justement Matmabekov, qui donne l'impression quand même de devoir se reposer régulièrement, alors que Gaba est tout de suite sur l'homme.
Mais rapidement dans la séquence, il arrive à imposer ses mains. Il subit pas la garde de Joanne Benjamin Gaba. Il met du déplacement. Alors est-ce que c'est aussi pour casser le rythme de Joanne Benjamin? Certainement, on est en bordure. Il a placé sa main, Joanne. C'est son adversaire qui essaye de le monter sur sa hanche. Une tentative de contre. Alors, il y avait vraiment une chaleur dans la salle là, parce que sur ces contres là, lorsqu'il faut jeter l'adversaire vers l'arrière, ils sont très forts, les Tchétchènes, les Daghestanais. 6 minutes et 30 secondes. Joanne Benjamin qui se relève encore une fois, le premier 0-0. Matmabekov qui reste à genoux et Ludovic Delacote sur la chaise qui demande que Joanne vienne placer sa main droite au revers de son adversaire et de secouer sa main pour créer de l'espace, créer du jeu dans la veste de son adversaire et ensuite pouvoir placer son mouvement d'épaule. Mais il faut déjà mettre cette main au revers et il n'y arrive pas. Joanne Benjamin, il est en train de chercher sa distance, de s'écarter de l'étreinte de Matmabekov qui se jette sur le dos dans un sumigashi. C'est sur le dos Joanne Benjamin qui ne peut pas travailler au sol. 6 minutes et 47 secondes, le coach émirati qui demande une pénalité contre le français. Ce serait une pénalité disqualificative, ce serait la troisième.
Pourquoi?
Et il serait envoyé dans
le tableau
de repêchage parce qu'il estime que son combattant fait les séquences, produit, et que Joanne Benjamin n'attaque pas. Mais c'est la séquence d'avant, il y a deux séquences, c'était Joanne qui attaquait. Nouvel assaut dans ce combat, Joanne Benjamin Gaba au sol et qui essaye de placer son talon derrière le coude de Matmabekov. On se relève, c'est, je disais tout à l'heure, du rugby à une passe, Christophe. Là on pose les mains, on attaque, c'est pas terrible, il n'y a pas de préparation, il en faudrait, ça peut aussi être signalé comme une fausse attaque. Mais Joanne Benjamin Gaba, d'abord poser les mains vite. Oui, c'était bien d'essayer d'attaquer dès la saisie en grand fauchage extérieur au Sotogari. Il n'a pas réussi, ça a lâché dès que la saisie. Oui, il est en train de le monter. C'est Matmabekov qui reprend l'initiative, mouvement d'épaule du français. Matmabekov qui essaye presque de le retourner. L'attaque dans l'attaque. 7 minutes et 17 secondes. On est dans un marathon, Christophe, toujours 0-0. Là, les deux adversaires sont accroupis. Personne ne se relève. Ça y est, c'est Gaba qui se relève le premier.
Ça commence à être très très long.
Faut pas penser au futur.
Comme température dans la salle à Budapest, c'est chaud.
Il fait bon, c'est bien aéré, ça va. Non, c'est pas la fournaise. 7 minutes 17 dans ce combat. Joanne Benjamin, le premier, il avance vers son adversaire. Matmabekov, main droite au col de son adversaire, au col du français. Joanne qui essaye de se dégaler. Joanne Benjamin, ça jette sur le dos pour Matmabekov. Il n'y a pas de contrôle. C'est une fausse attaque, Christophe. Joanne Benjamin qui est déjà en place, c'est l'arbitre qui regarde Matmabekov. Relevez-vous avec la main, le plat de la main tendu vers lui. Relevez-vous, s'il vous plaît. pour fausse attaque. Pour fausse attaque, voilà. La fausse attaque, deux pénalités partout.
Égalité
parfaite. Faut aller le cueillir maintenant. La pomme est en train de tomber de l'arbre, Christophe. Faut la saisir. Là, c'est le plus dur maintenant. La troisième pour la faire tomber. Là, les arbitres, faut que ce soit indiscutable. Pour Johan Benjamin Gaba, faut pas chuter. Ce serait bien s'il pouvait faire une action, le mettre sur le dos. Comme ça, il n'y aurait pas d'histoire. Grand fauchage intérieur de Makhmat Bekov qui tout de suite monte à genoux, tombe à genoux. Il est incapable de poursuivre ses mouvements. Johan qui va au sol. Faut le manger au sol. Grignoter les derniers morceaux de la barre d'énergie. Toujours ce sans Kakujime, ce retournement en triangle pour Johan Benjamin Gaba. Bouche grande ouverte. Il est déjà debout. Tandis qu'il est presque debout. Ça y est, il est debout. Et Makhmat Bekov, lui à genoux, se relève. Les dernières réserves d'énergie. Il en a toujours un petit peu. Il y a toujours 1%. Ça clignote. Ça clignote la batterie de Makhmat Bekov depuis 3 minutes.
En panne sage.
Ah, mais il est là. Attention, Christophe. C'est tête de série numéro 4. C'est fort. Sur un coup de judo, ça peut passer. Faut d'abord les mains pour Johan Benjamin. Il ne les a pas. Oui, il va chercher. Il va le monter. Il est en train de le monter. Faut pousser. Pousser vers l'arrière. Oui. Hippo. Demi-finale pour Johan Benjamin Gaba. Demi-finale. 8 minutes de combat. Le doigt vers Ludovic Delacote. Le mental, la mentalité T, la mentalité Tony, comme il aime dire Johan Benjamin Gaba. On ne lâche pas. En face, ça finit par céder. C'est du titane. C'est de l'acier, ce garçon, le médaille olympique.
Génial.
Et il va affronter dans quelques minutes demi-finale, sa première demi-finale en championnat du monde, un client, l'Italien Lombardo, qui a déjà été médaillé mondial, 5e des Jeux Olympiques, et un garçon qui a une petite histoire avec la France. Il parle très bien français, sa chérie est en équipe de France, un garçon super sympa. Un match France-Italie, ça promet. Lombardo, c'est du très haut niveau, mais c'est une grande journée de Johan Benjamin Gaba. Dans deux combats, Sara Leoni Sisic, quart de finale contre la Serbe Perisic.
Super, magnifique victoire de Gaba, ce garçon qui ne lâche rien évidemment, qui a été dominé dans son début de combat et qui s'impose par Hippon. Il est donc qualifié pour les demi-finales. On va voir des médailles. Elles vont tomber aujourd'hui comme à Gravelotte à Budapest. 15h25, nous partons maintenant à Chantilly, c'est l'heure du quintet. C'est avec Dimitri Blanc-L'Œil. Salut Dimitri.
Salut Christophe, bonjour à tous. Avec le quintet sur les pommes de Chantilly, Bulas, le numéro 3, qui vient de s'imposer. Il a gagné facilement en plus, hein. Bulas, il était associé à Christophe Soumillon dans cette épreuve, qui était ravi au passage du poteau. On sent que ça lui fait plaisir. Le numéro 3 s'impose avec plusieurs longueurs d'avance. Alors pour l'instant, on voit justement un peu le ralenti là, puisqu'il s'impose à 18 contre 1. Code outsider, c'est le numéro 11 qui est deuxième, Ganas. La troisième place pour le numéro 8, c'est Harryway. Le 2, Watchim, termine quatrième. Et derrière, la cinquième place est un peu plus disputée. Mais pour l'instant, 3, 11, 8, 2, ça c'est pour les quatre premières places du quintet. Il y a photo entre le numéro 13 et le numéro 16 pour la cinquième place. Donc arrivée du quintet provisoire sur les promes de Chantilly, le 3 devant le 11, le 8 et le 2, et photo, non, il n'y a plus photo, c'est le numéro 1 qui est 5ème, 3, 11, 8, 2 et As. Voilà l'arrivée provisoire, Christophe, du quintet. On se retrouve dans une petite demi-heure pour l'arrivée définitive et les rapports de ce quintet, justement. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 15h26, vous êtes sur RMC. Dans quelques instants, nous allons partir sur les routes du Dauphiné, la dernière étape du Critérium en direction du Mont-Cenis. Nous allons également partir au Mans pour la dernière demi-heure des 24 heures. Nous serons toujours à Cologne avec Pierre-Yves Leroux pour la petite finale de Nantes dans le Final Four de Hand. Et puis, on va vous parler rugby parce que la liste est tombée. Et oui, la sainte liste de Saint-Galtier qui nous a donné quelques petits noms qu'on ne connaissait pas. Enfin, Pierre Thévenet, il connaît tout, il va tout nous dire dans un instant. La liste donc pour aller défier les All Blacks. Je ne sais pas si avec ça, on va gagner tous les matchs face aux Néo-Zélandais. Je sais qu'il est très, 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 très optimiste, mon ami Thévenet. On va voir, on verra après la tournée. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Marion Bartoli.
Retrouvez-moi tous les dimanches dès 19h dans Bartoli Time. On revient sur tout le sport de la semaine avec la Dream Team RMC et bien sûr les meilleurs invités. Alors, à tout à l'heure dès 19h sur RMC.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8 000 € d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8 000 € se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Salut Eric, un loto foot s'il te plaît.
Attends, tu sens ce parfum?
Non, je sens rien.
Vas-y, respire, encore.
Le café?
Ça sentirait pas la victoire.
Ah, ça, on verra.
C'est dimanche, pactole Lotto Foot d'1 million d'euros. Avec Parions Sport Point de Vente.
Montant minimum à partager entre les gagnants du rang 1 Loto Foot 15. Voir règlement. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1 euro, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors, je comprends, le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas, je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1 euro, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RMC en direct, les podcasts RMC et votre musique avec RMC Gold
sont disponibles sur l'appli RMC, Radio Player, TuneIn et toutes vos plateformes de radio.
RMC,
partout,
tout le temps.
RMC, Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
15h29, on était à Budapest avec notre ami Morgan Mori. Bon, on y retourne parce que Sarah Léonie Cizik est sur le tatami, elle aussi en quart de finale, Morgan.
Oui, face à Perisic, une Serbe, c'est une fille de sa génération. Elles se connaissent depuis les juniors, 4-3 dans leur confrontation pour Sarah Léonie Cizik. Encore 2 minutes 53, 0-0 entre les deux jeunes femmes. Un carton jaune de chaque côté, saisie régulière pour la Serbe et la Française qui a mis du temps à attraper la veste. Mais elle s'est peut-être fait mal au genou sur le combat précédent, Sarah Léonie Cizik. Et sur ses appuis, genou droit, il me semble qu'elle a le pied un peu ouvert. On va voir si une fois qu'elle a les mains posées, Christophe, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du combat, elle est capable de lancer avec sa force, avec son tonus habituel. Deuxième pénalité contre Perisic, ça c'est une bonne nouvelle, fausse attaque, une attaque pas contrôlée pour Perisic. 2 minutes 38, 0-0, quart de finale des moins de 57 kilos. Sarah Léonie qui a sa main dans le dos de son adversaire, c'est bien fait, elle a besoin de garder cette main là-haut, accrochée au dossard bien fort, tracter son adversaire, mais Perisic qui fait lâcher, toujours au centre du tatami. Sarah Léonie qui part à la poursuite avec ses jambes, essayer de faucher la défense de son adversaire, faucher les jambes pour créer le chaos, créer le désordre. Perisic qui est en droitière, gauchère pour Sarah Léonie Cizik, on a les hanches qui se touchent pratiquement, ce sont des combats un peu particuliers. On est en bordure, la main dans le dos pour Sarah Léonie Cizik, c'est parfait, tourner le dos, elle essaye de le faire, c'est un peu mollasson. On sort du tatami, 0-0 Christophe, encore 2 minutes 0-4 dans ce quart de finale des moins de 57 kilos, 0-0 entre Cizik et Perisic, mais deux cartons jaunes contre la Serbe.
Voilà, Sarah Léonie Cizik va-t-elle terminer dans le dernier carré de ces championnats du monde, opposée donc à son adversaire croate. Pour l'instant, deux pénalités contre la Croate, une seule contre la Française. Et 2 minutes encore dans ce combat.
Ouais, on est au milieu du tatami, le combat est reparti. Sarah Léonie Cizik qui a la manche de son adversaire. Perisic qui se jette sur le dos, une technique de sacrifice en mettant un peu de rotation pour essayer de faire basculer la Française sur le côté. Ça peut être très piégeux. Sarah Léonie Cizik qui a contrôlé. Elle a besoin d'attaquer, poser ses mains un peu plus vite, attaquer un peu plus vite et tracter Perisic surtout, parce que si on s'avance vers elle, eh bien on s'expose à ce genre de mouvement où on vient vous enrouler, vous faire passer cul par-dessus tête. 1 minute 38, 0-0. On est au centre du tatami, ça repart. Sarah Léonie Cizik, la main en revers, elle a besoin de la manche, elle a le coude de son adversaire, ça c'est bien, elle va chercher derrière le talon de son adversaire en grand fauchage extérieur, ça n'a pas fonctionné. On se relève dans ce combat, 1 minute 25 toujours en bordure. Sarah Léonie Cizik, mouvement d'épaule de Perisic, un kataguruma, la roue autour des épaules. Sarah Léonie Cizik qui contrôle bien, qui appuie sur son adversaire, pas de marque, il faut tomber sur le dos, sur le côté pour qu'il y ait une valeur. 1 minute 19, c'est très accroché Christophe, je l'ai dit, 4-3 dans leur confrontation, toujours des combats très difficiles face à ces filles qui ont 10 ans pratiquement de passif en compétition. 1 minute 13 encore dans ce quart de finale pour Sarah Léonie Cizik. Perisic avec son grand bras droit qui essaye de passer sur l'épaule de la Française, elle double ses mouvements d'épaule, la Française qui n'arrive pas à contrôler, elle se fait entortiller mais elle reste à genoux. Attention, Perisic multiplie les mouvements d'épaule, la Française n'a pas le temps d'organiser, un peu comme le combat précédent entre l'Emirati et Johan Benjamin Gaba. Christophe, il faut aller plus vite à la saisie et plus vite sur l'attaque. Encore 1 minute 0-0.
Voilà, encore une minute, c'est pas facile d'aller plus vite quand même, parce qu'elle est... on rappelle que Sarah était déjà sur le tatami il y a quoi ? Il y a moins d'une demi-heure avec un combat qui a duré près de 10 minutes.
Ouais, un peu plus, un tout petit peu plus. Les combats ont duré aussi. Il y a le combat de Joanne Benjamin Gaba qui a duré, hein, donc ça lui a permis de récupérer un tout petit peu plus. Mais là, elle tombe vite à genoux, la Française, à mon avis. Ça va donner une pénalité contre elle, oui, pénalité pour fausse attaque. Restez droite, attaquez fort pour Sarah Léonie Cizik, qui montre pas son véritable visage, Christophe, dans ce combat. On la voit plus tonique, plus explosive. Est-ce que c'est son genou peut-être touché tout à l'heure qui la gêne? On est en bordure, 42 secondes, deux pénalités partout, on est sur un fil, pas prendre la troisième. Ça y est, la main, la ceinture, c'est bien, il faut surpasser l'attaque de la Serbe. Elle le fait, Sarah Léonie, bien tentée, c'est tombé à plat ventre, à genoux, on va au sol. Sarah Léonie Cizik qui est sous son adversaire, on essaye de l'enrouler pour un retournement. Non, Perisic qui a senti le danger, qui se met à plat ventre, à genoux. On se relève, 0-0, encore 25 secondes et on basculera en golden score si rien n'est marqué. Deux pénalités de chaque côté, Christophe.
Voilà, c'est long ces combats, hein. C'est très très long aujourd'hui. Ouais. Aucun adversaire n'arrive à faire la différence dans le temps imparti. Il faut toujours procéder au golden score qui va arriver dans 20 secondes. Toujours deux pénalités chacune pour Cizik et Perisic.
Oui, la tentative de Sumigashi, la technique de sacrifice pour Perisic, et il n'y a vraiment pas beaucoup de contrôle, c'est pas terrible, mais elle occupe l'espace, si on peut dire, avec cette attaque. Perisic, elle empêche Sarah Léonie Cizik de poser ses mains, d'attaquer. L'arbitrage a parfois aimé ce genre d'attaque tout de suite lancée. Là, ça ne donne rien. 0-0, Christophe, dans deux secondes, c'est le golden score. La première qui marque remportera ce combat. 0-0, golden score.
Voilà, golden score, d'autant que la première qui marque ou la première qui est pénalisée, puisqu'elle sera deux partout.
Ouais. C'est la deuxième manière de remporter ce combat. Joanne Benjamin Gaba réussit à marquer. La pénalité, ça marche aussi. Mais pour avoir la pénalité, il faut être productif, Christophe. L'un ne va pas sur l'autre, on a envie de dire. On est au sol. Sarah Léonie Cizik qui est à plat ventre. Perisic qui essaye d'empêcher la Française de se relever. 0-0, 13 secondes dans le golden score. On a des séquences très courtes, hein. Les jeunes femmes qui ne prennent peu de temps pour organiser leur saisie, pour tirer, créer un déséquilibre. Sarah Léonie Cizik, main gauche placée. Perisic, encore une fois, avec ce Sumigashi qui doit bien énervée tactiquement la Française. Dès qu'elle a une main de posée, Perisic lance. Est-ce que les arbitres de la table vont donner la pénalité contre la Française? Non, pas sur ce coup-ci, mais il faut produire, Christophe. Elle a besoin d'une attaque. Elle a un petit fauchage. Elle sait le faire, Sarah Léonie Cizik, au centre du tatami. Elle a le coup de ça. Y est, ça c'est très bien. Elle a la saisie. Faut lancer, faut préparer. Et c'est Perisic, encore une fois, qui se jette sur le dos, qui amène la Française vers elle. Travaille au sol. La main dans le dos de Sarah Léonie Cizik, c'est un contrôle fort. Ensuite, il faut aller décrocher la jambe. Décrocher le genou, passer le genou entre les cuisses de son adversaire. Non, elle n'a pas réussi, l'arbitre Adi Maté, il n'a pas beaucoup laissé travailler. On va se relever, 0-0, Christophe. 4 minutes et 50 secondes dans ce combat, quart de finale des moins de 57 kilos. Il y a une place en demi face à la combattante japonaise. Rien n'est fait pour l'instant, la première qui marque passe en demi.
Voilà, combat interminable. On ira tout à l'heure sur le Dauphiné, sur le Hand et sur les 24 heures du Mans, mais pour l'instant nous restons avec Sarah Léonie Cizik en route pour une demi-finale, on l'espère évidemment. On lui souhaite, nous sommes dans le golden score de ce quart de finale. Avec
ouais, nouvelle attaque de Perisic qui s'est vite jeté à genoux. Pas une bonne attaque. L'arbitre, il y a eu un moment suspendu là. On a pensé qu'il allait donner une pénalité. Non, Perisic, mauvais mouvement d'épaule. Celui-là, il faut le contrôler, ça peut faire fausse attaque. Le coach serbe qui fait la moulinette avec les bras, il réclame la fausse attaque. Parce que Perisic attaque, mais oui, ce sont des mauvaises attaques. Moi, Christophe, je serai arbitre, je laisserai faire. Débrouillez-vous avec vos mauvaises attaques là. Faites du judo, des vraies attaques.
Je voilà, Sarah Léonie Cizik. Morgan Cizik, comme arbitre international.
Oui, mais l'arbitrage est tombé dans les travers. Le mouvement d'épaule de Sarah Léonie, il faut aller la poser sur le côté. Ah, il a manqué quelques degrés, Christophe. La belle attaque, ça c'était une belle attaque de Sarah Léonie. Elle avait placé son adversaire sur le dos. Malheureusement, elle n'a pas réussi à finir le mouvement, à mettre le coup de poignet, le coup de cuisse aussi supplémentaire pour remonter Perisic et la mettre sur le dos. Voilà, peut-être l'ouverture, elle est là sur ce mouvement d'épaule. 5 minutes et 30 secondes dans ce combat, dans cette prolongation entre Sarah Léonie et Cizik, qui a une place dans un dernier carré de championnat du monde. Elle a deux médailles olympiques, Sarah Léonie Cizik individuelle, mais pas de médaille en championnat du monde. C'est peut-être son moment aujourd'hui à Budapest. Mouvement raté là de Perisic. Elle enchaîne, elle essaye de retourner encore la Française en allant sous son aisselle, en accrochant même à l'intérieur. Sarah Léonie Cizik qui a mis ce qu'on appelle les crochets. Christophe, elle a les deux pieds à l'intérieur des cuisses de Perisic. Ça, c'est fort pour remonter dessus sur l'immobilisation. Elle est capable de le faire à Perisic qui repousse avec le dessous avec des pieds, la plante des pieds. Elle repousse la Française. C'est dommage parce que là, il y avait un beau renversement peut-être à la clé pour Sarah Léonie Sizic.
Elle a besoin de respirer, Perisic, hein, parce que là, commence à y avoir un peu moins d'oxygène dans cette salle.
La journée est longue, Christophe. Joanne Benjamin, il y a peut-être 6 combats aujourd'hui. Laura, 6 combats aujourd'hui pour Sarah Léonie. C'est son troisième. Pour Perisic aussi, longue journée. 6 minutes. On est en bordure. Sarah Léonie, oui, le grand fauchage extérieur. Perisic qui est resté, qui a esquivé avec sa jambe extérieure. On est au sol encore une fois. Il y a une jambe qui est prise pour Sarah Léonie Sizic. Il faut la sortir. D'abord, aller contrôler la tête. Il y a une marche à suivre au sol. D'abord, contrôler la tête. Ça grimace pour Perisic parce que là, il y a le contrôle d'abord en plus sur le bras pour Sarah Léonie Sizic. Ensuite, se mettre sur le côté. Mais il faut d'abord le bras et la tête. Elle se met la fesse sur le côté pour Sarah Léonie Sizic. Elle tente la clé de bras. Elle est partie sur la clé de coude ou des garamis. Ça va peut-être taper, Christophe. Peut-être la clé de bras pour Sarah Léonie Sizic. Il faut lui tordre le bras. Allez, pousser. Faire l'angle droit avec le coude de Perisic qui résiste. Là, c'est un duel terrible de souplesse. Mais elle résiste fort, Perisic. Elle va pas taper la combattante serbe alors qu'elle y est la clé. Il faut lui monter le coude à elle, l'arbitre qui donne maté. Ah. Tout à l'heure, elle a raté le Jujigata, met la clé de bras sur la rue. C'est là, elle rate la clé de coude, Oudeh Garami sur Perisic. Ah, c'était la meilleure occasion d'en finir, Christophe. Une clé de bras, on tape, c'est Ippon. Quitte à lui taper le bras, à lui casser le bras si elle n'a pas envie de taper. 6 minutes et 50 secondes.
Oh, bah, t'es sympa, toi.
Ça arrive. Bah, oui, c'est un championnat du monde. Tu auras envie de taper pour obtenir ta médaille, toi. Finale des moins de 60 kilos. Le japonais, il a été pris en clé de bras. Il a avoué par Romain Valadier Picard. Il a dit j'ai pas tapé. C'est lui qui est champion du monde. Il avait tapé. C'était Romain Valadier Picard qui était champion du monde vendredi. 7 minutes dans ce combat. 0-0. Sarah Léonie Sizic et la Serbe Perisic au centre du tatami. Deux adversaires qui se connaissent parfaitement. On est dans un miroir là, Christophe. Ça ne bouge pas. C'est très statique. Il faut aller chercher une autre saisie peut-être pour la Française. Ça jette à genoux pour Perisic. Hop, hop, hop. Ça, c'est la fausse attaque. L'arbitre qui tourne un peu la tête sur le côté. Derrière, il y a la table d'arbitrage. Est-ce que dans l'oreillette, on va lui faire un petit signe? On se tourne vers Perisic. Ce Chidon, on le voulait, Christophe, il arrive. C'est pas un hippon comme Johan Benjamin Gaba. Ça passe en demi-finale pour Sarah Léonie Sizic. Qualification après 7 minutes et 12 secondes de combat pour Sarah Léonie Sizic. Elle est en demi-finale du championnat du monde. Il y a la médaille qui est pas loin. Ça va monter encore en température tout à l'heure avec Momo Tamaoki, la japonaise. Il faudra passer sur le corps de Tamaoki pour la moins de 57 kilos de la Boulogne-Billancourt. Mais juste avant, il y aura la demi de Johan Benjamin Gaba face à l'Italien Lombardo.
Bon, ben va boire un coup quand même. T'as le droit d'aller boire un petit coup quand même, Morgane, avec ces deux combats interminables, ces trois combats interminables que tu viens de nous commenter. Donc, qualification de Gaba et de Sizic pour les demi-finales qu'on va vivre avec toi dans quelques minutes. 15h40. Alors, on va faire un petit tour en parce que nos amis nantais sont en train de mettre une rouste au Barça, si je me trompe pas, monsieur Leroux.
Oui, oui, en tout cas, c'est le H qu'on attendait du côté de ce Final Four. C'est un H qui laisse le Barça avec 9 buts seulement marqués à la pause contre 14 pour le HBC Nantes, donc plus 5. C'est le visage qu'on attendait et ça donne encore un peu de regret par rapport à la rencontre d'hier, mais au moins ils ne seront pas passés complètement à côté de leur Final Four. Il reste une mi-temps encore pour aller chercher une victoire, la 3ème place. Ça serait beau, hein, tu sais qu'ils n'ont battu Barcelone qu'une seule fois en 11 confrontations. Ils ont fait un nul cette année et ça remonte déjà à 2017, je crois, la victoire des Nantais face à Barcelone. Donc là, ils sont sur le chemin d'une nouvelle victoire. Ça serait pas mal.
Ah voilà, tu ne serais pas déplacé pour rien, quoi. On a bien cru quand même que tu étais allé faire un tour à Cologne.
Que j'étais le chat noir.
Ouais,
c'est
ça. Bah, comme d'habitude. Hein, bon, allez, à tout à l'heure, Pierre-Yves. Donc pour l'instant, tout va bien pour Nantes. Il me semble avoir vu un maillot vert qu'on connaît bien en tête de course de cette 8e et dernière étape du Dauphiné, Maria Azé. C'est toujours le cas? Le maillot vert est-il toujours devant?
Oui, le maillot vert est toujours devant à 46 km de la arrivé Mathieu Van Der Poel qui est parti pour jouer le sprint intermédiaire à la base au niveau de Saint-Michel de Maurienne et il est parti tout seul devant. Ensuite Mathieu il a continué 56 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants composé notamment de notre petit français Lenny Martinez qui fait un début de Dauphiné un peu compliqué. Christophe, c'est pas forcément passé comme prévu notamment dans la montagne. Il a dit qu'il avait un petit problème de forme Lenny Martinez. Voilà, donc Mathieu Van Der Poel toujours en tête.
Il a terminé deuxième du Tour de Romandie il y a peu de temps, donc là il était en forme.
Et il a gagné une épreuve sur Paris-Nice, il était prometteur. On nous le vendait comme un peu la pépite française.
Oui, mais après tu peux pas, à la stage là, t'es encore un peu inconstante.
C'est pas le Texas maintenant.
Exactement. Et sur le Tour de France, ce sera Lenny Martinez, puisque Paul ne participera pas. On te retrouve dans quelques minutes, Maria, avec Jérôme Pineau. Un tout petit mot également avec Nicolas Paolorsi. On est à 18 minutes de la fin des 24 heures, Ferrari toujours en tête. Attention à la Porsche, elle est pas loin quand même, Nico. Hein.
Elle est pas loin cette Porsche à 11 secondes. De toute manière, les escarres, c'est historique. Il y a 6 voitures qui se tiennent en un seul tour. Ça n'est jamais arrivé aux 24 heures du Mans. Il y a notamment les 4 premiers qui se tiennent en 22 secondes. C'est bien la Ferrari de Robert Kubica. C'est pas la Ferrari qu'on attendait. Hein. Troisième au championnat du monde, cette voiture. Et puis Robert Kubica, tu le connais, Christophe, ancien pilote de Formule 1.
Bien sûr, et de
vainqueur de Grand Prix.
Ouais,
et il a eu un énorme accident, grave accident de rallye qui lui avait totalement mutilé le bras. Ouais. Il a plus de sensibilité dans son bras droit. Il a appris à devenir gaucher et malgré tout, il arrive encore à conduire au très très haut niveau. Donc c'est cette Ferrari qui est en tête à moins de 20 minutes de la fin.
Ah, il a fait de la Formule 1, il a fait du rallye et désormais il est en endurance et peut-être vainqueur des 24 heures du Mans dans un quart d'heure. 15h43, on revient dans un instant. Je sais pas si on va avoir le temps de parler rugby avec Pierre Thévenet. Il est là, il attend, il patiente. Il a plein de noms à nous donner, on les connaît pas. À tout de suite sur RMC.
RMC.
Intégral Sport sur RMC tous les matins dès 6h30. Commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Ne ratez rien du foot sur RMC.
Ce soir à 21h, match de groupe de la Coupe du Monde des clubs, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h45, vous êtes sur RMC, le vélo, le judo, l'endurance avec les 24 heures du Mans, le hand avec la petite finale pour Nantes qui est largement devant face au Barça, et puis un peu de rugby avec Pierre Thévenet qui nous rejoint à l'instant avec une liste toute fraîche, toute neuve, celle qu'a donc annoncé Fabien Galthié. La fumée blanche est sortie de Marcoussi tout à l'heure pour nous annoncer donc la liste des 28. Il y en aura peut-être un peu plus dans quelques jours. Les 28 qui vont disputer le premier match, ce ne sera pas en Nouvelle-Zélande, mais face à l'Angleterre, Pierre.
Oui, un match contre l'Angleterre 15. Et nous, c'est France A, ça ne compte pas comme une sélection officielle. D'accord. Ce match, c'est vraiment un match amical, même si on sait à quel point ces crunchs ne sont pas du tout amicaux. Mais en tout cas, c'est vraiment un match qui est prévu dans l'idée de préparer cette tournée en Nouvelle-Zélande.
Ou alors que Mathieu Van Der Poel a failli faire un tout droit dans la descente, il commence à pleuvoir sur les routes du Dauphiné. Alors, c'est un peu compliqué cette liste parce que on n'a pas encore les noms des 5
finalistes qui seront autorisés
à partir en Nouvelle-Zélande. On n'a pas encore les noms de ceux qui seront battus en demi-finale la semaine prochaine. Donc c'est un exercice un peu compliqué auquel s'est livré Galthié.
C'est ça, c'est une liste qui va être annoncée en 3 parties. C'est ça qui est assez particulier. Là, on a vraiment le premier jet de cette liste. On l'a, tu l'as dit, aucun demi-finaliste, donc pas de Bayonnais, pas de Toulonnais, pas de Toulousains et pas de Bordelais. Donc c'est vraiment que des joueurs qui ont déjà terminé leur saison de top 14. Et en plus de ça, même parmi ces joueurs-là, certains n'ont pas été sélectionnés, comme Pierre Bourgarit qui s'est un petit peu blessé, Le Rochelet contre Pau à la dernière journée, Paul Boudet en 6. Ce sont des joueurs qui pourraient être en Nouvelle-Zélande, mais qui ne seront pas là en Angleterre samedi. On a quand même des cadres qui sont là. Nolan Le Garec qui est un habitué, Gaël Ficou qui est un habitué de l'équipe de France, Romain Taofifénois, Cameron Wauki qui revient, Antoine Astoy qui revient, Emilien Gailleton sont des joueurs qui sont habitués de l'équipe de France, Léo Barré, Théo Atisogbe également qui était là au dernier tour de destination. Ceux-là seront là dès l'Angleterre et vont partir en Nouvelle-Zélande. Et avec eux, il y a en effet quelques noms un petit peu moins connus. Donc on a des très jeunes joueurs à fort potentiel. Baptiste Jonot, par exemple, le demi-mêlée de Clermont qui fait une très belle saison. Maël Moustin, l'ailier de Montpellier qui est annoncé comme une bombe également. Et puis Fabien Galthié et son staff ont tenté quelque chose, notamment 3 joueurs d'origine étrangère. Olivier Etty du Guivalou, le centre fidjien de Perpignan, Tyler Duguid, le deuxième ligne canadien de Montpellier, et Jacobus Van Tonder, le troisième ligne sud-africain de Perpignan. Ce sont des joueurs qui ont tous plus de 5 ans de résidence en France et qui sont donc sélectionnables pour le 15 de France et qui seront là samedi à Twickenham.
D'accord, pour ce premier match de la tournée, ensuite départ pour la Nouvelle-Zélande, long voyage évidemment, et trois matchs à disputer au pays des All Blacks, avec l'espoir d'en remporter au moins un.
5, 12 et 19 juillet.
Voilà, bon, les deux dernières fois où nous sommes allés en Nouvelle-Zélande, on était rentrés avec trois défaites à chaque fois, ouais. 2013, 2018, il y avait eu 2009, où c'est la dernière victoire française à Dunedin, et on espère évidemment que les Français vont arriver à faire ça. Alors, tu nous donnais quand même des noms de joueurs cadres de l'équipe de France, mais les stars ne sont pas là.
Non, les stars ne sont pas là. Certains sont blessés. Antoine Dupont, par exemple, le premier. Greg Aldrit, Winnie Antonio, ces joueurs-là sont blessés. Il y a ceux qui ont des petits pépins pas graves, mais qui vont devoir passer sur le billard cet été. Romain Ntamack, qui a encore un petit peu mal à son genou opéré. Et Mathieu Jalibert, nous a annoncé le midi olympique, qui va également devoir subir une petite arthroscopie du genou. Donc, a priori, ces deux-là ne seront pas là. Et la règle qui va être suivie par l'équipe de France, c'est celle que préconise World Rugby, c'est de ne pas dépasser ce seuil dont on parle beaucoup, des 2000 minutes jouées dans la saison. Un seuil que, par exemple, a déjà explosé Louis Bielbiaré, qui va finir la saison à 31 matchs, c'est 2400 minutes. Donc lui, vous pouvez l'oublier, il va rester au frais à Bordeaux cet été. A priori, Damien Penaud, ce sera pareil. Thomas Ramos, ce sera pareil. Il y a plusieurs joueurs comme ça qu'on ne verra pas. Thibaut Flamand a beaucoup de matchs également.
Les phases finales.
Exactement, les phases finales, la Coupe d'Europe, le tournoi de destination. La tournée d'automne également qu'il ne faut pas oublier. Oui. Ces joueurs-là, on pourra faire une croix sur eux pour cet été.
Et est-ce qu'on fait une croix sur les victoires possibles en Nouvelle-Zélande ou non ?
Peut-être, on va peut-être en gratter un. Moi, je vois bien gratter un petit test.
On va bien gratter. Ah ouais. D'accord. Bon, ben écoute, on nous le souhaite évidemment. On se le souhaite et on le souhaite à Galtier et à ses hommes. Ces trois matchs qui auront lieu, tu le disais.
5, 12 et 19 juillet.
12 et 19 juillet. Très bien. Merci, mon cher monsieur Thévenet. On se retrouve ce week-end. Ce
à
week-end,
Lyon.
Évidemment, avec les demi-finales du top 14. Je vous rappelle les affiches. Vendredi soir à 21h, Bayonne défiera le champion sortant, le Stade Toulousain. Et le lendemain, eh bien, l'UBB sera opposé au RC Toulon, le deuxième et le troisième de la saison régulière. On a quand même là les quatre clubs qui ont terminé aux quatre premières places. Hein. Pour l'instant,
la logique est respectée. Les clubs à domicile ont gagné les barrages qu'ils ont joué chez eux. Toulon contre Castres et Bayonne contre Clermont. Donc, c'est les affiches qui étaient attendues au vu de la saison régulière. À voir si Bayonne ou Toulon arrivent à bouleverser un peu la hiérarchie et venir embêter Toulouse et Bordeaux.
On vivra ça donc vendredi soir et samedi soir en direct de Lyon. Merci Pierre. Il est 15h49. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, hein, on fait de la F1. Ah bah tiens, on fait de la F1, bah c'est l'heure. Mais non, c'est pas l'heure du Grand Prix, mais c'est l'heure de Jean-Luc Roy. Il se réveille évidemment à 15h50, il est sorti de sa sieste. Salut Jean-Luc.
Oui, depuis longtemps. Salut mon Chris, bonjour à tous.
Bon, alors, Grand Prix du Canada, en même temps, l'arrivée des 24 heures, j'imagine que tu as un œil sur l'arrivée des 24 heures. On va juste aller faire un point avec Nico Paolorsi, parce qu'on est à 10 minutes de la fin de ces 24 heures et que, il pourrait y avoir encore du changement, Nico, hein, tant les écarts sont faibles en tête de course. Est-ce qu'il est là, Nico ? Non, il est parti.
Oui, LMP2,
il s'est endormi.
Vous m'entendez ? Non, j'étais là. Est-ce que vous m'entendez ?
Ça y est, on t'entend, oui, on t'entend.
Ouais, je vous disais que oui, il peut y avoir bien évidemment des changements. On se souvient d'un scénario de dingue avec une Toyota là, qui avait abandonné il y a quelques années à 2 minutes de la fin, moteur qui n'avait plus de puissance. Donc tout peut se passer au Mans. Et il y a des écarts, tu le disais, qui sont très faibles. 15 secondes d'avance pour la Ferrari, qui n'est pas une Ferrari d'usine de Robert Kubica, le Polonais vainqueur de Grand Prix en Formule 1, qui a 15 secondes d'avance sur une Porsche pilotée par un Français, Kevin Estre. Et il y a une bagarre pour la troisième place entre les deux Ferrari d'usine, piloté par Giovinazzi et par Foucault. Elles sont séparées d'une petite seconde. Donc là, c'est vraiment la guerre dans les toutes dernières minutes pour aller chercher cette troisième place, ce podium. Ce serait une vraie surprise de voir quand même cette Ferrari, qui n'est pas la machine d'usine, remporter les 24 heures du Mans. C'est la troisième équipe, le troisième équipage au classement du championnat WEC depuis le début de saison. Donc ils sont en train de faire une vraie belle performance sur cette course mythique.
Ok, tout de suite Nico pour la suite et la fin de ces 24 heures du Mans, cette course mythique, Jean-Luc, qui a lieu toujours le même week-end que le Grand Prix du Canada. Quand même, les organisateurs de la Fédération Internationale pourraient se débrouiller pour essayer de décaler un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de pilotes qui pourraient participer aux 24 heures, même si je crois que quand tu as un contrat dans une écurie de Formule 1, t'as pas le droit d'aller faire le malin sur d'autres épreuves, hein.
Oui, alors il y a eu quelques exceptions, comme tu le sais. Fernando Alonso, par exemple, à un moment avait mis un peu en sommeil sa carrière en Formule 1 et était venu au Mans pour l'emporter. D'ailleurs, Jacques Villeneuve était venu aussi. Enfin, il y a eu pas mal de pilotes de F1 comme ça en exercice. Mais c'est vrai que ça tombe très mal et c'est vrai que c'est extrêmement regrettable parce que le Grand Prix du Canada est évidemment très important. Mais les 24 heures du Mans, c'est quand même une des trois courses mythiques à mes yeux, hein, avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Et c'est vraiment dommage.
Ceux qui ont réussi le triptyque, il y a un nom particulier, non, 24 heures du Mans, Indianapolis et...
Ah ben, il y a Graham Hill notamment, c'est le premier à réussir cet exploit absolu. Effectivement, c'est la triple couronne, comme on dit. Alors, c'est totalement fictif, n'existe pas dans les faits, mais évidemment, c'est un honneur absolument incroyable. Et il manquait Alonso Indianapolis, tu sais qu'il est venu également participer à deux reprises aux 500 miles. C'est une fois, ça se passait très bien, puis malheureusement, il a eu un problème de moteur. Mais c'est pas évident, même pour les meilleurs en Formule 1, de venir s'imposer au Mans, bien sûr, mais aussi à Indianapolis, puisqu'on a vu Nelson Piquet, triple champion du monde, venir se fracturer les deux jambes très gravement à Indianapolis. On a vu Nigel Mansell. Enfin, si tu me lances là-dessus,
je vais pas te lancer là-dessus, parce que malheureusement, on a peu de temps. Tu le sais bien, mon Jean-Luc, on est toujours un peu pris par le temps, avec le judo, en plus, qu'on va avoir une demi-finale dans quelques instants. Donc, quelques mots quand même de ce Grand Prix du Canada qui aura lieu donc tout à l'heure et qu'on vivra avec toi, avec la pole position, surprise, enfin moi ça m'a surpris en tout cas, de George Russell sur la Mercedes qui s'élancera aux côtés de son meilleur ami Max Verstappen. Ça peut chauffer entre les deux là en début de course, hein. On sait qu'ils s'apprécient c'est un euphémisme. Hein.
C'est le grand intérêt, bien sûr. Alors le circuit fait 4,361 km sur l'île Notre-Dame, tu sais, au milieu du fleuve Saint-Laurent, hein. C'est là que s'étaient déroulés notamment les Jeux Olympiques et l'Exposition Universelle, les Jeux Olympiques en 76 et l'Expo Universelle en 67. Et les mètres les plus importants, c'est les 186 premiers mètres jusqu'au premier virage. Parce que, comme tu l'évoquais, George Russell a donc signé la pole comme l'an dernier ici au Canada. C'est la sixième pole seulement de sa carrière de pilote de Formule 1. La première cette saison, bien sûr. Et il aura son meilleur ami, ennemi, Max Verstappen, à ses côtés. Alors, où sont les McLaren, vas-tu me dire? Eh bien, Oscar Piastri a signé le troisième temps. Il sera sur la deuxième ligne avec Kimi Antonelli, le jeune Italien de chez Mercedes. Donc confirmation que les Mercedes sont très performantes sur ce tracé. On retrouve ensuite la Ferrari d'Hamilton sur la troisième ligne avec Fernando Alonso. Là aussi, voilà deux meilleurs amis du monde. Hein,
depuis
leur cohabitation, tu te rappelles, chez McLaren en 2007. Hein. La grille, elle est chaude. Là, et Lando Norris est septième et Charles Leclerc n'est que huitième. Il s'est raté en qualif. Il était fou de rage d'ailleurs parce qu'il dit que la voiture l'aurait permis au moins d'être sur la première ligne de la grille de départ.
Alors, Max Verstappen a été puni pour ce qu'il a fait il y a quelques jours à Barcelone. Il risque gros quand même sur ce Grand Prix. Il n'a plus intérêt à faire de bêtises. Autrement, il pourrait perdre des points sur son permis et devoir le repasser dans 6 mois, quoi. Hein.
Exactement, il n'a plus les moyens de perdre un seul point puisqu'il y a 12 points sur cette super licence. Il en a perdu 11 puisque lors du dernier Grand Prix que tu évoquais avec l'accrochage avec Russell, il en a perdu 3 d'un coup. Donc il est à un point de la suspension et là ce serait évidemment un cataclysme, j'allais dire, pour la Formule 1, tellement Verstappen a talent et tellement c'est lui qui maintient très souvent le suspense. S'il était frappé donc d'une interdiction de piloter pour un Grand Prix, il suffit d'une petite erreur. Donc c'est vrai qu'il va être certainement, même s'il dit non, hein, il dit je vais piloter comme d'habitude, je pense pas à ça, dès que je suis au volant, dès que j'ai rabattu la visière de mon casque, je ne fais qu'attaquer. Mais bon, Russell l'a évoqué avec humour aussi en disant moi j'ai encore plus de points que lui sur mon permis, donc je pense que je vais être un peu plus agressif qu'il ne pourra l'être. Donc on va s'attendre à un freinage en tout cas musclé au premier virage. Et puis après la course est longue, hein. Il y a 70 tours. Alors il pleuvait l'an dernier et le petit parallèle c'est que l'an dernier, eh bien, c'est Russell qui avait la pole et Verstappen était deuxième et c'est Verstappen qui l'avait emporté. Verstappen a d'ailleurs remporté les derniers Grands Prix, hein, du Canada, 2022, 2023, 2024. Et pour Hamilton, il faut remonter à 2019. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'enjeux, et l'enjeu sont les pneumatiques aussi, comme d'habitude. Alors il y aura deux arrêts a priori, hein. Le premier autour du 15e tour, parce que je pense que la majorité des pilotes vont partir avec des médiums. Ensuite, on montera soit un train de dur, soit un train de médium, et puis on devra s'arrêter à nouveau vers le 45e tour.
Un mot Jean-Luc, d'un garçon qu'on apprécie beaucoup, c'est Fred Vasseur, qui est le patron de la Scuderia, mais qui aujourd'hui eh bien, fait l'objet d'une campagne anti-Vasseur en Italie. La presse transalpine est assez dure avec le patron de la Scuderia. Il faut dire que les résultats ne sont pas vraiment là. Est-ce qu'il joue gros lui aussi? Est-ce que ses pilotes jouent gros sur ce Grand Prix? Ou alors c'est juste du blabla médiatique en Italie?
Écoute, oui, je crois qu'on fait le buzz, tu sais, puis c'est traditionnel en Italie, hein, la pression sur la Scuderia est énorme. D'ailleurs, Fred l'a dit lui-même, il a dit, je m'attendais à ça, je suis pas vraiment déçu. Tant qu'on a des résultats, on est porté au pinacle, et puis dès qu'il y a des problèmes, et c'est le cas cette année, évidemment qu'on n'est pas au niveau où on voudrait être, évidemment qu'on travaille comme des fous. Alors après, évoquer un remplacement, notamment, tu vois, on va faire le lien avec les 24 heures du Mans, on a même évoqué le nom du patron italien de l'équipe d'endurance de Ferrari, ouais. Voilà. Mais bon, ça, tu sais, c'est des bruits de couloir, d'accord, pour ne pas dire de caniveau. Non, je pense pas qu'il soit en danger du tout. Je pense qu'il travaille solidement. Les pilotes le soutiennent à fond, bien évidemment. Alors, évidemment, il faudrait que les résultats viennent. On est tous d'accord. Et lui, le premier. Hein. Ouais. Bah oui.
Forcément. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va te quitter parce que la demi-finale de Gabba vient de débuter, à moins qu'elle ne s'achève très rapidement. On te retrouve tout à l'heure. Donc, pour le départ de ce Grand Prix, ce sera à 20h ce soir à vivre sur RMC. À tout à l'heure, Jean-Luc. Il est 15h58. On repart à Budapest. Gabba à nouveau sur le tapis, début de combat très difficile face à l'Italien, oui. Morgan.
Oui, l'Italien Lombardo, double finaliste en championnat du monde, 2 médailles d'argent, 5e au JO. Première action pour Lombardo, le Katagourma, la roue autour des épaules qu'il sait faire, Johan Benjamin Gabba. Il a très bien fait Lombardo, le français est tombé à plat ventre, ça n'a pas donné de valeur. Et là, il vient d'en lancer hein, justement, Katagourma, Johan Benjamin Gabba, en allant chasser la jambe droite de Lombardo. Ça n'a rien donné, on en reste debout 3 minutes et 8 secondes dans cette demi-finale des moins de 73 kilos. Une place en finale mondiale des moins de 73 kilos est en jeu. 0-0 Christophe, Gabba qui est à plat ventre, on se relève, Lombardo. C'est du très solide double finaliste mondial. Il joue pour l'histoire. Il n'y a jamais eu un Italien garçon champion du monde de judo. 7 finales, 7 défaites, dont 2 pour Lombardo. Gabba Lombardo, 0-0. Christophe, il reste 2 minutes 50 dans cette demi-finale.
2 minutes 50, mais peut-être un peu plus. On l'a vu tout à l'heure avec le golden score pour les quarts de finale. On est allé très loin dans ces combats. Est-ce que cet adversaire italien sera aussi fatigué que l'Emirati?
Pas sûr.
Il a l'air solide, il a l'air plus costaud.
Pas sûr. Lombardo. On va voir, hein. On ne sait pas comment Johan Benjamin peut grignoter ses réserves énergétiques. 2 minutes 30, on est sur la bordure du tatami. Lombardo, bras droit qui pousse fort. Johan Benjamin Gabba, le français qui fait l'effort pour aller poser son bras droit derrière la tête de son adversaire, attraper le col. Mais Lombardo a senti la menace tout de suite. On a repoussé, on remet Gabba à distance avec la main sous le triceps de son adversaire. Là, c'est un contrôle qui est très fort, qui est très gênant parce qu'on peut soulever le bras gauche de Johan Benjamin Gabba. On est bloqué dans cette situation. Pénalité pour les deux garçons, justement, parce qu'avec cette situation, judo bloqué, 2 minutes 10, Christophe, un carton jaune partout dans cette demi-finale des moins de 73 kilos, 0-0 entre Lombardo et Johan Benjamin Gabba.
On revient vers toi dans un instant.